Story.
Bonjour et bienvenue sur Entro Story, je suis Jonathan et aujourd'hui je suis accompagné de Maël. Salut Maël.
Salut.
Bienvenue sur Entro Story, t'es un auditeur et ça c'est super cool quand on reçoit des auditeurs et tu vas collaborer avec nous sur la suite, mais on vous en dira plus en fin de podcast. On va passer très vite sur la présentation pour éviter de s'attarder dessus. Je t'avais demandé de te définir et de me donner quelques phrases sur toi. Alors tu m'as dit que t'étais sensible, pas mal, rêveur, ça c'est intéressant, curieux, ça nous plaît vraiment beaucoup sur Entro Story. Ultra sociable, ça c'est bien pour ton métier, hein, guide conférencier je pense, tu vas nous le dire plus tard. Curiosité, profonde passion pour le voyage, bon ben c'était Voyage Cast avant donc t'es bien chez toi. T'aimes communiquer, apprendre, parler, manger, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de bouffe sur Entro Story, mais ça serait sympa. Et t'aimes les gens, je comprends pas pourquoi, mais c'est très bien pour ton métier je pense, et t'aimes la vie, ce qui est génial. Donc ça c'est en très court pour qui tu es, on en apprendra certainement plus prochainement, mais ce qui va nous intéresser surtout ce soir, c'est que tu es guide conférencier. Alors, première question un peu innocente, je sais ce que c'est un guide, je pense savoir ce que c'est un conférencier, par contre les deux, je comprends pas le concept.
Le guide conférencier, c'est quelqu'un qui va présenter un monument ou un site historique, tout en donnant une conférence, mais ça va pas être une conférence où... le guide est debout et... Enfin, si justement, le guide est debout, ça commence mal. je veux dire, c'est pas quelqu'un qui se tient dans une salle devant une assemblée de 50 personnes et qui va parler, débiter son texte et point. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de réaction possible. Le guide conférencier, c'est un petit peu un médiateur, entre guillemets, entre le monument qu'il présente, le site historique et son public. Donc ça va être quelqu'un qui va être capable d'attirer l'attention du public tout en s'adaptant à son public et de faire quelque chose de vivant, de culturel, mais aussi de ludique, de sympa à vivre.
On va dire un guide, est-ce que ça existe déjà des guides qui ne sont pas conférenciers? Parce que après, il faut juste souligner le truc, tu es français, tu n'es pas en France actuellement, tu es en Allemagne, mais c'est vrai qu'il y a des dénominations de métiers qui sont différentes entre les pays. Donc je suppose qu'au Canada, par exemple, ce n'est pas forcément appelé de la même manière, je ne sais pas si tu le sais, mais... C'est quoi est-ce qu'il y a une différence avec un guide normal? Parce que j'ai l'impression à Berne, tu vois, encore cet après-midi, je me promenais, il y avait un guide, il avait aussi ses fiches, tu vois, il parlait d'une statue, en l'occurrence, près de la cathédrale. Est-ce que c'est juste une dénomination française ou est-ce que ça s'appelle guide ailleurs?
En réalité, c'est un titre. Guide conférencier, c'est un titre que tu peux obtenir uniquement en obtenant la carte de guide conférencier. C'est une carte qui te sert de... passe-droit, entre guillemets, qui te donne l'accès à certains monuments et sites officiels, notamment les sites du réseau Monum, donc le château de Versailles en France, etc. Donc c'est véritablement une carte qui est couplée à un diplôme que tu obtiens. En France, c'est la licence professionnelle guide conférencier, et donc ne peuvent s'appeler guide conférencier que les guides officiels habilités à exercer... dans différentes zones. En fait, en France, le diplôme que l'on obtient, il nous permet d'exercer partout en Europe. Donc, c'est très encadré. Normalement, on va parler plutôt de guide ou de guide accompagnateur si la personne n'a pas la carte de guide. En théorie, c'est le niveau au-dessus, tu vois. C'est comme dans Pokémon, tu as une évolution, tu passes de Pikachu à Raichu. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas couper cette partie-là au montage.
Non, écoute, c'est un bon exemple. Moi, je le comprends très bien. Écoute, il faut être dans l'air du temps. Enfin, Pokémon Go, ça a un peu baissé, mais bon, écoute, c'est pas mal. Donc, ok, c'est un nom et c'est au-dessus du guide, t'as une formation. Alors, avant de te poser toutes ces questions et d'aller dans les détails, moi, j'ai été faire un petit peu quelques recherches sur Internet et je sais qu'il y a une question à laquelle tu es habilité à répondre et dont tu devrais savoir la réponse, qui est « À quoi servaient les gargouilles ?»
Les gargouilles, ce sont donc ces sortes de gouttières qu'on peut apercevoir sur les cathédrales et qui servaient à l'origine à écouler l'eau. C'était donc comme on a des gouttières sur nos maisons aujourd'hui, eh bien ça servait donc à évacuer la pluie qui ruisselait donc le long de ces canaux. Et tant qu'à faire, les constructeurs les maîtres d'ouvrage des cathédrales ont décidé d'ajouter un petit côté un petit peu mystique. Donc en donnant les maîtres d'ouvrage des cathédrales ont voulu donner une figure et une figure un petit peu effrayante, puisque, alors il y a différentes interprétations des gargouilles, mais à l'origine l'idée c'était juste ça, juste de permettre à l'eau de s'écouler, et en réalité on a joué sur le côté faire peur aux fidèles, puisque les cathédrales pendant, les églises et les cathédrales ont pendant un certain temps servi à faire peur aux fidèles, en lui disant, entre guillemets, voilà, si t'es pas un bon chrétien, si tu crois pas, si tu pries pas de manière assidue, il y aura pas d'enfer, il y aura pas de paradis pour toi, tu iras directement en enfer et tu auras une vie après la mort, tu connaîtras une vie horrible, une vie tourmentée. Et donc les gargouilles, c'est justement un exemple précis des choses qui ont été mises en place par l'Église pour faire peur aux fidèles. Il y a un côté pratique qui est à l'origine. Et on en a profité pour faire peur.
Ok, et ben donc c'est la preuve que tu es un vrai guide conférencier, un guide normal n'aurait pas su me répondre. Non, c'était pour marrer, mais c'est intéressant et du coup c'est vrai que c'est une des questions qui est posée sur un site internet. Alors du coup, on a compris un petit peu ce que c'était guide conférencier. Est-ce que tu as des spécialisations dans le guide conférencier? Parce que ces genres de trucs, ok, ben déjà t'as quoi comme formation? Est-ce que t'es historien? Est-ce que t'es archéologue? T'es anthropologue? Quel est ton lien avec tout ça, en fait, t'apprends quoi?
Alors moi j'ai d'abord étudié le tourisme de manière générale. J'ai fait un BTS tourisme, donc un diplôme qui existe uniquement en France, je crois, qui permet d'étudier un petit peu tous les métiers du tourisme, d'avoir un bon aperçu tant des métiers d'agent de voyage que d'hôtesse de l'air, steward, etc. Et après ce BTS, j'ai fait une spécialisation, donc une licence professionnelle, la licence professionnelle guide conférencier, dans laquelle j'ai eu des cours d'histoire, des cours d'histoire de l'art, des cours de langue et chaque semaine des exercices pratiques avec donc des mises en situation réelle avec des vrais groupes qui avaient même parfois payé. Donc on est parti à l'étranger, on est parti à Malte par exemple, mais partout un petit peu dans le sud de la France, là où se déroulait ma formation. On a tourné, on a été faire des visites guidées de Toulouse, des visites guidées d'Avignon, de Narbonne, etc. Donc une formation théorique et pratique qui balaye l'ensemble de l'histoire de l'Europe, de la préhistoire à nos jours, en histoire et en histoire de l'art.
Okay, mais du coup, ça veut dire que, enfin, de toute façon, tu n'as pas tout le matériel, tu vois. On va pas te parachuter dans, je sais pas, Rome, et puis on va dire, ben tiens, tu fais guide conférencier à Rome. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher des trucs sur Wikipédia pour avoir des petites histoires à raconter aux gens qui viennent. Est-ce que c'est des infos que tu as déjà? Est-ce qu'on te donne un dossier avec, ben je sais pas, les descriptions des machins que tu vas voir? Ça se passe comment? Parce que bon, l'histoire de l'Europe, je suis d'accord, mais c'est complet quand même comme truc. C'est du solide, quoi.
On est d'accord. D'ailleurs, un guide qui te dira sans problème et sans préparation, ouais, moi je peux te faire une visite guidée de n'importe quelle ville, ce sera bah, juste un gros prétentieux entre nous.
Ouais, je vois ça.
Alors, en réalité, durant la formation de guide conférencier, on obtient des bases solides sur un petit peu tous les sujets. C'est donc une initiation à, entre guillemets, tous les sujets qu'on va être amené à côtoyer. Donc, une initiation à l'archéologie, une initiation à l'histoire de l'art, etc. Il y a certains pôles qui sont immanquables, des connaissances de base qu'on doit nous inculquer. Et au-delà de ces connaissances, on acquiert des méthodes de recherche pour pouvoir cibler très vite en fonction de notre public. On sait qu'on va avoir 30 personnes, que ça va être en été, que ça va être dans telle ville avec tel niveau de culture générale, entre guillemets, parce que bien sûr, on va pas s'adresser pareil à un groupe d'enfants qu'à un groupe des amis du musée, du Louvre ou autre. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une culture générale relativement vaste qu'on acquiert dans la formation, mais aussi un petit peu en continu, en essayant toujours de lire, d'échanger avec un maximum de personnes, de visiter un maximum de musées, d'expositions, etc. Et lorsqu'on sait qu'on va diriger une visite d'un site précis, voire même un circuit à l'étranger sur un pays précis, la théorie. Tous les guides ne sont pas aussi sérieux, mais la théorie, ce que j'essaie d'appliquer en tout cas, c'est des mois à l'avance, si possible. Des fois, on n'a pas autant de temps que ça. Des fois, ça se décide une ou deux semaines à l'avance, mais le plus tôt possible, bien travailler sur son sujet. Donc, comme tu as dit, à travers des livres, à travers des documentaires, à travers des échanges avec des experts sur le sujet, pourquoi pas des anthropologues, justement. Et voilà, Wikipédia, j'essaie plutôt d'éviter, hein. Ça peut être pour vérifier une information que je connais déjà, mais quand je pars de zéro, j'essaie d'éviter Wikipédia.
Et est-ce que tu as des spécialisations, tu vois, genre, est-ce que tu peux être le guide conférencier spécialiste de Paris ou le guide spécialiste, je sais pas, d'un musée spécifique, ou est-ce que justement, de par la complexité de ton travail, tu es obligé de switcher chaque fois entre les trucs, tu vois?
Alors ça, c'est un choix de carrière. C'est un choix en fonction de ta personnalité, de tes aspirations, de tes centres d'intérêt. Tu peux soit te spécialiser, voire te surspécialiser. Il y a des guides aujourd'hui qui vont te faire uniquement des visites sur les statues, uniquement trouvées dans tel pays à telle époque. Et au contraire, il y a des guides qui vont être très curieux et très polyvalents et qui vont essayer de toucher à tout. Soit tu peux essayer d'aller chercher des diplômes supplémentaires, donc après la licence, d'aller chercher un master sur un type d'histoire particulier et décider de diriger surtout des visites sur ce sujet, soit tu peux faire au fil des opportunités et de tes envies. C'est vrai que moi, pour l'instant, bah, personnellement, puisque je suis aussi un voyageur passionné, j'adore l'Italie, j'ai un gros coup de cœur pour l'Italie. Et mon premier contrat, je l'ai signé avec une agence qui m'a permis d'aller diriger des visites en Irlande. Donc l'Irlande et l'Italie, c'est pour moi, pour l'instant, les deux sujets que je maîtrise le plus, mais ça peut être amené à changer plus tard dans ma carrière.
Ça te laisse pas mal de liberté finalement, c'est très sympathique. Parlons un petit peu de justement comment est-ce que tu trouves ton travail, parce que je veux bien que tu aies un papier, voilà, tu as ta base, c'est cool, mais après comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu es auto-entrepreneur? Est-ce que tu fais un blog où tu dis hey les gars, je suis guide conférencier si vous en cherchez un? Ou est-ce que tu vas bosser avec une, je sais pas, est-ce qu'il y a des agences pour ça? Comment est-ce que ça fonctionne?
En fait, t'as donné toutes les réponses possibles dans
Ah
ta
merde.
question.
Ah, c'est une mauvaise question alors.
Non, du tout. Du tout, c'est très clair. Oui, donc il y a des agences qui embauchent des guides, soit pour des prestations à la journée, soit pour accompagner des circuits. Ensuite, il y a des guides qui se mettent à leur compte. Donc là, ça va être en freelance, qui vont distribuer leurs cartes de visite, leurs CV un petit peu partout. Et puis, il y a aussi des guides qui travaillent juste dans un musée, qui veulent, soit pour des raisons familiales, soit par intérêt, voilà, qui veulent travailler uniquement dans un musée et qui, eux, donc, se posent pas la question, ils restent à l'année sur le site. C'est l'avantage de ce métier, c'est que c'est un métier extrêmement flexible. En fonction de ton âge, de tes compétences, de tes envies du moment, tu peux soit partir à l'autre bout du monde, soit travailler pour un musée très 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 connu, soit monter tes propres visites et travailler avec un office de tourisme d'une toute petite ville, voire d'un village.
Ouais, j'ai juste une question alors par rapport à, on va parler peut-être de l'argent après parce que c'est quand même intéressant, puis je suis suisse donc j'aime bien parler d'argent forcément, mais gardons les clichés, hein. Mais j'ai une amie qui est archéologue pour le coup et qui était guide dans un musée. Alors en Suisse c'est différent, je sais pas si t'as besoin d'un papier spécifique, mais en tout cas elle est archéologue et elle a réussi à faire ça. Et je sais que c'était une arnaque dans les musées en fait, parce que globalement elle devait être dispo, tu vois, genre le dimanche ou le lundi, ou j'en sais rien, mais s'il y avait personne, elle gagnait que dalle en fait. Et du coup, c'était extrêmement compliqué. Alors, je pense que peut-être si tu es au Louvre, au British Museum, tu vois, tu as des chances d'avoir un grand taux de visiteurs, mais il me semblait que c'était pas vraiment le bon plan pour peut-être des musées plus régionaux, quoi. Enfin, quoique Berne, c'est la capitale de Suisse, mais bon, c'est tout petit.
Alors, chaque pays a une législation différente, comme tu l'as dit. En Suisse, ça se passe pas de la même manière qu'en France. Au-delà de ça, il y a toujours des contrats qui sont différents et chaque institution, chaque agence, chaque musée va imposer des conditions différentes. C'est vrai que c'est pas forcément avantageux. Là, dans le cas de ton amie, ça peut être une situation, ouais, assez précaire, surtout si elle a, bon, elle est archéologue à côté, non, anthropologue ou archéologue?
Archéologue.
Archéologue. Donc voilà, elle a son autre activité à côté, mais si elle dépendait que de son métier de guide, c'est vrai que là, ce serait assez compliqué. Mais le problème, c'est que de manière générale, le métier de guide conférencier, enfin de guide, c'est un métier très précaire. C'est un métier qui demande un investissement énorme. On doit faire des heures, voire des mois de recherche sur nos sujets. Et on doit être présent parfois dans le cadre des voyages accompagnés. Moi, je suis présent H24 avec le groupe, donc je peux très bien être dérangé à 3 heures du matin s'il se passe quoi que ce soit. Et pourtant, on n'est pas payé H24 quand on est en voyage, et même sur site, effectivement, les contrats sont des fois très courts. Des fois, on est obligé d'accepter un contrat d'une semaine parce qu'on n'a rien pour, bah voilà, rien pour manger, quoi, rien pour vivre. Donc, ça peut être très frustrant et très problématique. Et c'est là le vrai problème, c'est que c'est un métier professionnel qui demande une carte, qui demande une sélection à l'entrée de la formation, qui est très exigeant. Et pourtant, quand on obtient cette carte, eh ben, on n'a pas forcément la garantie d'avoir une situation, un salaire et une sérénité adéquate au niveau d'études et aux efforts que ça nous demande.
Ouais, enfin, tu me diras, c'est probablement le cas de beaucoup d'autres professions, mais c'est vrai que le côté d'être précaire, même quand tu es en contrat, c'est un peu embêtant. D'ailleurs, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, je sais pas, si tu accompagnes un groupe de touristes, est-ce que tu es logé dans le pire hôtel possible et tu vas devoir aller bouffer au McDo alors qu'ils sont des 5 étoiles? Ou comment est-ce que ça se passe justement quand tu es avec un groupe à ce niveau-là?
Alors là, on arrive justement dans le côté du métier que j'aime bien.
Ah,
Donc tu
donc tu
l'as
vas dans un
deviné
5 étoiles.
exactement.
Ah.
Ça se passe souvent comme ça. Les clients, donc il y a différents standings pour les voyages, mais tu voyages de la même manière que les clients. L'agence s'engage à te fournir les mêmes prestations que les clients payants, ce qui veut dire que si tes clients sont des clients haut de gamme et qui vont dormir dans du 4 et 5 étoiles, et manger du caviar, tu vas dormir dans du 4 et 5 étoiles et manger du caviar. Et tout est pris en charge de la même manière. Les transports, quand je dois prendre un avion pour me rendre en Irlande ou autre, c'est mon agence qui prend mon billet d'avion, qui réserve tout pour moi, qui paye tout pour moi.
Donc le côté précaire, c'est vraiment plutôt si tu n'arrives pas à trouver de contrat, on va dire, ou que tu as des contrats qui sont très faibles, genre tu travailles 30% du mois, c'est un problème, mais si tu le fais plutôt régulièrement, si tu as entre guillemets, ta bouffe et bon, ton logement, il n'est pas vraiment payé parce que tu en as un vrai chez toi quelque part d'autre, mais tu arrives à t'en sortir, quoi, en ayant possiblement des voyages sympas, non?
Ça dépend parce que donc déjà c'est deux choix de carrière différents, guide accompagnateur et guide conférencier. C'est là qu'est le paradoxe aussi, c'est que pour être guide accompagnateur, donc ce que je fais en Irlande par exemple, on n'a pas forcément besoin de la carte de guide conférencier.
Ah, c'est bien, c'est bien. Du coup, je peux le faire.
Ouais, si voilà, toi qui es aussi un grand voyageur, si ça t'intéresse, ouais, je pourrais te donner des tuyaux. oui, ça c'est un métier que toute personne motivée, qui connaît son sujet, etc., peut être amenée à faire. En revanche, le guide conférencier, qui va vraiment travailler sur un site, il a parfois, même souvent, des contrats très courts, donc des contrats de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, le temps d'une exposition temporaire, par exemple. Et là, pour réussir à vivre dans ces conditions en n'ayant que cette activité, c'est pas facile.
Ok, je vois bien la différence. Ouais. C'est un peu bizarre parce qu'il me semble que l'un devrait être plus considéré que l'autre. Mais bon, après, c'est des lois, etc. C'est très différent. D'où justement, j'avais noté justement dans mes recherches, pour un anthropologue justement qui serait ou spécialiste d'une région ou d'une temporalité, etc. Alors bon, peut-être effectivement pas des gens comme Daniel Terrol qui connaissent bien la vie des SDF, ça ferait peut-être un accompagnement de voyage plutôt étrange, mais j'imagine que quelqu'un qui maîtrise bien un endroit peut être un guide accompagnateur plutôt facilement pour combler les fins de mois ou être entre deux missions d'anthropologue. Enfin, est-ce que tu penses que ça peut être une bonne possibilité de carrière pour un anthropologue, peut-être un jeune en plus qui a envie de voyager?
Ouais, ce serait certainement un bon complément qui permet effectivement de voyager gratuitement et dans des endroits où on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller, puisqu'on fait aussi en fonction de la demande. Ça permet toujours de se faire des contacts en plus, parce que quand on accompagne des voyages, on rencontre des groupes de 50, donc dans une saison, on peut rencontrer 400, 500 personnes. Parmi celles-ci, il se peut, sur un coup de chance, qu'il y en ait une qui soit effectivement aussi anthropologue ou archéologue ou autre. Donc on peut se faire des contacts. Ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Certainement pas la rémunération nette par contrat,
Je ne sais
mais...
pas si les anthropologues sont les plus payés au monde non plus, donc ils verront peut-être pas beaucoup de différence, tu vois.
Oui, c'est sûr que le métier de guide, que ce soit conférencier ou accompagnateur, souvent les guides qui sont conférenciers essaye au moins une fois ou deux d'être accompagnateur. Mais dans tous les cas, on a beaucoup d'avantages. Pas celui de la rémunération, parce que à moins de travailler dans des langues particulièrement rares ou sur des lieux particulièrement prestigieux ou avec des publics particulièrement VIP qui vont donner des gros pourboires, etc., on est souvent en dessous du SMIC. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Surtout quand tu es accompagnateur, que tu restes H24, 7-7 avec les voyageurs et les touristes, et qu'au final, tu touches en dessous du SMIC net. Ça reste vraiment précaire. En revanche, il faut aussi voir le côté positif. Quand tu es jeune ou célibataire, enfin, par célibataire, j'entends pas marié, hein. On peut avoir une copine, un copain, exercer le métier.
Oui, enfin, t'as pas une famille de 4 personnes qui t'attendent, quoi.
Exactement. Là, on a quand même les vols qui sont payés, les hôtels qui sont payés, les restaurants qui sont payés, les entrées sur les sites historiques qui sont payés, la possibilité d'élargir sa culture générale à chaque fois qu'on travaille sur un nouveau sujet, la possibilité d'élargir son réseau professionnel et personnel puisqu'on rencontre des centaines de personnes. Et en plus, là, tu dis adieu à ta routine, hein. C'est pas métro boulot dodo, hein. Doudou. C'est pas métro boulot dodo.
Ouais, ce côté-là est intéressant. Mais du coup, comme je suis un être très pragmatique et justement un capitaliste, comment est-ce que tu fais pour devenir guide accompagnateur d'un truc VIP qui va sur un voilier pendant 4 semaines? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est sans rire, il y a des agences en Suisse, par exemple, je sais qu'ils proposent des voyages qui peuvent être même vraiment très loin, genre en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou des endroits comme ça très très spécifiques, mais qui sont des trucs qui sont impayables pour la plupart des gens. J'imagine qu'être guide accompagnateur, ça peut être un bon business, non?
Ah oui, ça permet de faire des expériences de voyage que tu n'aurais jamais, soit auxquelles tu n'aurais pas pensé, soit effectivement que tu ne peux pas te permettre de financer toi-même. Oui. Comment ça marche du coup, pour répondre à ta question? Ça marche essentiellement par réseau. Tu travailles avec une agence, tu as des questionnaires de satisfaction que les clients remplissent, dans lesquels ils disent que tu es un guide formidable et que c'était le meilleur voyage de ta vie. Enfin, pour moi,
j'ai
en tout cas,
aucun doute là-dessus, hein.
C'est comme ça que ça se passe.
Évidemment.
Et ensuite, l'agence collecte ces questionnaires et voilà, ils font leurs statistiques. Quand ils t'ont embauché 2 étés de suite et que sur 120 questionnaires, ils en ont 110 qui disent que tu étais formidable, que tu connaissais bien ton sujet, que tu as su t'adapter, etc., que même en cas de problème, tu as bien géré les situations. Parce qu'on en parlera un peu plus tard peut-être dans le podcast, mais des problèmes, il y en a quand tu es guide accompagnateur. par rapport à ces questionnaires de satisfaction, l'agence te fait de plus en plus confiance. Et après, les agences parlent entre elles aussi, communiquent entre elles. Et tu peux te permettre de passer d'une agence à l'autre. C'est comme ça que ça marche. Il y a des agences qui proposent que quelques destinations. Et puis, comme tu l'as dit, il y en a qui font du très haut de gamme. Donc, tu gravis les échelons, entre guillemets. Il faut te faire connaître. Ça met quelques mois, quelques années. Mais à partir du moment où tu es bon dans ce que tu fais, ouais, tu peux te retrouver sur ce genre de voyage très haut de gamme. Et là, c'est très sympa.
Ouais, j'imagine. Ou alors d'aller dans des endroits historiques qui sont peut-être compliqués, ou alors où rentrer dedans, c'est pas évident. Ouais, c'est intéressant. Mais du coup, c'est vraiment un projet, on va dire, sur le moyen long terme, en fait, justement, de te faire cette expérience et cette renommée parmi les agences. Je savais pas que ça marchait comme ça. Ouais, c'est intéressant, c'est un joli défi, justement. Entre nous, toi, t'as une visée, justement, comme ça. Est-ce que tu te dis, dans 5 ans, je veux aller dans la jungle amazonienne avec mon groupe de touristes, ou je sais pas, d'aller en Syrie sur les endroits qui sont démolis maintenant, mais qui étaient historiquement intéressants. T'as un projet, justement, sur le long terme, comme ça?
Alors, juste avant de répondre à cette question-là, je voudrais rebondir un peu sur ce que t'as dit. Je voulais pas te couper la parole,
vas-y.
Mais...
vas-y.
Tu as parlé du fait d'accéder à certains sites, sites historiques, qui sont normalement fermés au public. Alors ça, c'est un des nombreux avantages du métier de guide. Mais là, je parle de guide conférencier, le guide certifié qui a sa carte. Encore une fois, juste un petit rappel, tout le monde peut être guide dans un petit musée communal. Voilà, il y a le musée du village ou autre. Là, tout le monde peut l'être. Mais dès qu'on arrive sur les sites comme le Louvre ou autre, il faut la carte de guide. Et cette carte de guide, elle a notamment l'avantage de donner la gratuité dans tous les sites nationaux, voire même européens. La gratuité, et même parfois sur certains sites, ça peut être un coup de fil. Ce qui veut dire que Sur certains sites, par exemple, j'ai eu plusieurs retours de collègues qui ont été au Colisée à Rome. Eh ben, au Colisée à Rome, ils payent pas, ils font pas la queue quand ils ont leur carte de guide.
Donc
Donc
c'est
c'est un
pratique
premier
ça.
avantage qui est très pratique. En voyage en Europe, je fais des économies, mais pas possible à coût de 10 euros, 10 euros, 10 euros de musée économisé. Bah, c'est toujours ça. C'est valable bien sûr en France aussi. Tous les musées des Beaux-Arts, etc., gratuits. Et le deuxième avantage, au-delà de la gratuité, c'est la possibilité d'accéder à ces coins un petit peu fermés qui sont normalement ouverts que lors des journées du patrimoine, voire jamais. Quand tu es guide conférencier, soit parce que tu prépares une visite, tu vas demander à l'accueil du musée, excusez-moi, j'ai besoin de voir l'ensemble du site, est-ce que je peux y accéder? Et bien souvent, on va te donner l'accès. Soit juste en tchatchant un peu les gens, en disant excusez-moi, je suis curieux, mais c'est mon métier aussi, sans raison officielle, tu peux aussi avoir accès à cette porte qui reste fermée toute l'année dans l'église ou à ce donjon du château ou autre. Tu peux être voilà, le seul à y avoir accès.
Tu peux rentrer dans les caves secrètes du Vatican et découvrir les secrets sur le monde.
Et découvrir les millions d'euros de la mafia qui sont stockés là-bas, ouais.
Aussi, possiblement, ouais, écoute, si t'as ta carte gratuite là qui peut faire rentrer partout. Non, bah, enfin, je rigole, mais ceci dit, ça c'est très sympa, je le savais pas. Et je pense que ça peut être intéressant sur certains sites, justement, où t'as pas forcément tout le monde qui peut rentrer, etc. Ou dans des réserves, par exemple, ça peut être absolument génial.
Ouais, ça c'est vraiment, vraiment sympa. C'est toujours appréciable d'avoir le petit avantage aussi par rapport aux autres touristes.
Ah oui, la satisfaction de passer devant tout le monde dans une file est inégalable.
Et maintenant, du coup, pour répondre à ton autre question concernant l'évolution de carrière, si je me vois quelque part en particulier dans 5 ans dans mon métier de guide, j'ai pas de projet particulier parce que. Comme je te le disais dans les petites phrases pour me présenter que tu as lues, donc je suis extrêmement curieux. Je pars du principe que tout peut être intéressant. Et donc j'accepte à peu près tout et n'importe quoi comme sujet. Et tout et n'importe quoi comme public. Ça ne veut pas dire que je vais accepter un contrat où je vais être payé 6 mois après, où je ne vais pas me faire respecter, etc. Mais je vais garder une certaine ouverture. Et ouais, bien sûr, ça me ferait bien délirer d'aller en Amazonie, etc. Mais même en France, hein, de faire visiter des petites villes ou autres, j'ai rien contre. Ouais, voilà, j'essaye de me servir de cette possibilité comme un autre moyen de découvrir le monde et d'aller dans des pays auxquels j'aurais pas forcément accès, encore une fois, comme les pays nordiques. Là, on m'a proposé un contrat en Norvège. Bon, quand tu vois que j'étais au Danemark il y a quelques semaines, au Danemark, une bière, ça coûte 10 euros. Enfin, c'est en couronne, mais l'équivalent, c'est 10 euros. ça fait quand même mal. Et quand tu y vas dans le cadre de ton travail de guide, c'est l'entreprise qui va les payer les 10 euros pour ta bière.
Ah, parce qu'en plus, ils payent les bières. Ah ouais, ben, t'aurais dû commencer par ça.
Ah
Le mec qui nous dit tu peux rentrer dans des trucs. Non, non, ils payent les bières. Ben ouais, d'accord, ok. Tu vas avoir plein de concurrents à la suite de la sortie de ce podcast. Hein. Je t'avertis tout de suite. Des
Je serais
amateurs de
ravi de
bière, il y
répondre aux
en a.
questions, hein,
Hein.
si t'as des demandes.
À fond, on fera des follow-up, de toute façon, si jamais vous avez des questions. Non, mais au-delà du truc, c'est très rigolo, c'est sympa. Est-ce que tu me parlais justement que la réputation avait une importance. Est-ce qu'il y a des guides conférenciers stars, tu sais, que je sais pas, tout le monde s'arrache, tu vois, je sais pas du tout comment ces systèmes fonctionnent, mais est-ce que je sais pas si je veux aller justement en Norvège ou un truc comme ça, je vais me dire, ah, je vais prendre Maël, c'est genre la star de la Norvège, tu vois, il connaît tout, il a des histoires incroyables qui sont même pas sur Wikipédia. Est-ce que ça marche comme ça ou pas du tout?
Alors déjà, tout bon guide aura des histoires qui ne sont pas sur Wikipédia. C'est une des
Eh ben,
valeurs
tu
ajoutées
sais,
du guide.
eh ben, justement, c'est des très mauvais guides parce que la connaissance, ça se partage. Donc, si tu connais un truc qui est pas sur Wikipédia, tu devrais le noter sur Wikipédia, tu vois.
C'est pas
Et
bête.
ouais. Et
Alors,
ouais, c'est comme ça que ça
ouais,
marche.
alors, oui. là, je suis un peu bloqué entre deux, entre ma position de vouloir défendre justement le métier de guide, le gagne-pain, et en même temps le côté ouais, collaboratif, c'est important que tout le monde poste sur Wikipédia. Ce qu'il y a, c'est que si tu peux tout trouver sur Wikipédia, pourquoi tu ferais appel à moi?
Eh ben, on va le voir dans une prochaine émission, hein. On fait le teasing, mais on va vous parler de technologie et notamment de la réalité virtuelle, augmentée et mixte, notamment pour le futur du travail de guide conférencier. Alors, je te troll un petit peu comme ça, juste
par plaisir.
Par plaisir, exactement, pour la prochaine fois. Donc, ceci dit, accessoirement, en principe, si on vivait dans un monde parfait, effectivement, je trouverais tout à fait normal que si tu as de la connaissance, autant la mettre au service de tout le monde et le mettre sur Wikipédia, qui reste quand même une excellente chose en ligne. Et je veux pas troller tous les anthropologues et les étudiants en anthropologie qui nous écoutent, mais la page anthropologie sur Wikipédia est à refaire complètement. Et il y a au moins trois panneaux, tu sais, les panneaux Wikipédia, cette page est à refaire, cette page est datée, cette page présente des trucs. Et t'es là et tu dis, enfin, quand même, sur le nombre d'anthropologues qui existent, qui parlent français, et notamment des jeunes qui utilisent probablement beaucoup Wikipédia, pourrait y en avoir au moins quelques-uns à bosser là-dessus pour avoir un truc correct, quoi. Je sais pas, tu vois, si tu étais amoureux de ta science et passionné par elle, le minimum de faire, c'est de le partager. J'ai l'impression qu'un Wikipédia, tu vois, c'est genre le truc que tout le monde va utiliser en premier. Après, effectivement, quand il y a des histoires de concurrence ou etc., je peux comprendre quand même. Je suis pas stupide non plus. Je comprends que certaines bonnes histoires, t'as envie de les garder. Mais, mais je vois ça.
Et non, mais c'est sûr, c'est une question intéressante que tu soulèves. Faut toujours trouver le juste milieu. Et de toute manière, tu peux avoir toutes les connaissances. Il y a une manière de s'adapter au public et une manière de rebondir sur les questions du public, etc. Qu'un guide qui va juste être un puits de science, mais qui, voilà, on peut être un puits de science et être un très mauvais guide.
Mais là,
guide.
Tu prépares déjà ton argumentaire pour la prochaine émission, là. Je le sens. Okay, tu es en train d'essayer de détourner mes propres auditeurs de mon raisonnement, qui sera absolument parfait, bien entendu. Non, j'ai calmé.
D'accord, on en parlera plus.
C'est ça, on en parlera plus précisément. Mais ceci dit, ouais, justement, on parlait du principe de devenir connu aux spécialistes. J'imagine, par exemple, alors, sans parler forcément stratégie personnelle et tout ça, mais si tu as quelqu'un qui arrive à être un blogueur ou un archéologue vraiment spécialiste d'une région, ou tout simplement qui est très fort dans le storytelling, j'imagine que le storytelling, c'est très important pour ta profession. On peut s'imaginer qu'il aura peut-être plus de clients, plus de facilité avec les agences et aura justement peut-être encore des endroits plus prestigieux, quoi.
Alors oui, ce que tu dis là aussi, c'est très pertinent. Un bon guide, ça va aussi être quelqu'un qui va savoir raconter les bonnes histoires, mais bien les raconter avant tout, donc mettre l'intonation, etc. C'est pour ça que quand je suis en Irlande, j'en profite, quand j'accompagne des voyages en Irlande, l'Irlande, c'est une terre de légende. Donc bien sûr, j'explique à mes touristes l'histoire de l'Irlande, la géographie de l'Irlande, les traditions, la société, les sujets tabous, etc. Je leur explique aussi ce qu'ils voient dans leur environnement, tout ce qui se passe devant leurs yeux, etc. Mais j'essaye de ponctuer d'histoires un petit peu épiques, de légendes,
genre l'histoire de Star Wars, par exemple.
Voilà, puisque Star Wars a été en partie tourné en République d'Irlande.
Pas de spoiler, hein, mais si vous n'avez pas vu l'épisode 7... Voilà, il faut le regarder.
Ouais, alors là, ça va encore être un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, John, mais c'est pas l'objet de ce podcast. Et juste pour en revenir à ce que tu disais, donc oui, on peut devenir un petit peu connu. Je pense pas qu'il y ait de superstar guide conférencier, même s'il y en a qui franchement le mériteraient. Je pense notamment à quelques guides qui, moi, m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont donné envie de devenir guide, parce que quand je les ai écoutés, eux, en visite guidée, je me suis dit... Waouh! En plus d'être un puits de science, c'est vraiment des personnes qui dégagent un charisme, une énergie que t'es scotché, quoi. T'as juste envie d'écouter, de boire chacune de leurs paroles. Et c'est vrai que ces personnes-là vont plus facilement percer. Ça va être de très bons orateurs, ce qui est très important pour le métier de guide. Et ça, en fait, ça va être du bouche à oreille. Les gens qui partent en voyage, ils vont se dire entre eux, tiens, je suis parti en Islande et le guide était super, il connaissait parfaitement l'histoire, machin. Je te donne le contact de l'agence et le contact du guide. Et après, effectivement, on a tous nos sites ou nos blogs qui permettent d'avoir une vitrine.
Ouais. Ok, excuse-moi, je crois que tu allais continuer.
J'ai cru aussi que j'allais continuer. Et en fait, non, j'avais plus rien à dire.
Ok. Alors, justement, parle-nous de ça en bref, peut-être, parce que c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien aborder prochainement sur Entre Story, même si c'est très compliqué à l'aborder. Le storytelling, justement, qui est super important, et c'est notamment quelque chose que les anthropologues n'ont pas forcément l'habitude de le faire, tu sais, parce que quand tu es à l'université, quand tu dois présenter tes devoirs, ton doctorat, ta thèse, ton master, etc., tu fais pas vraiment de storytelling, tu dois exposer des faits, c'est vraiment un côté très scientifique dans la façon de faire, tu sais, avec le style un petit peu pompeux, voilà, qu'il y a beaucoup dans les thèses. Et ça, je pense que c'est un truc qui va vraiment manquer aux anthropologues qui vont vouloir peut-être justement raconter des trucs, c'est savoir comment raconter quelque chose, c'est pas si évident que ça, au niveau de la structure, de savoir comment maîtriser son truc, pas perdre les auditeurs qui sont devant toi, qui sont en train de regarder la jolie fille qui passe ou un truc comme ça. Toi, c'est t'as appris comment à faire ça en fait? Est-ce que c'est dans tes cours ou est-ce que t'as justement pris, je sais pas, exemple sur des personnes que tu pourrais nous citer comment est-ce qu'on fait pour apprendre à faire du bon storytelling en tant que conférencier guide?
Alors moi j'ai la chance d'avoir naturellement un contact, enfin de m'exprimer facilement, d'aimer parler en public, etc. Donc ça joue en ma faveur. Mais le
C'est un
plus
plus, ouais.
gros, ouais c'est un gros plus dans le métier, mais le plus gros de ce que tu décris, encore une fois, c'est très pertinent ce que tu appuies là. Donc la différence entre quelqu'un qu'on va pouvoir considérer comme une encyclopédie vivante, un très très bon archéologue, anthropologue, un professeur d'université ou autre, et un guide conférencier qui va parfois avoir autant de connaissances, mais pas toujours, parfois moins. Mais pourtant, le guide, s'il est bon dans son métier, va réussir à passionner deux fois plus l'auditeur que l'archéologue ou autre qui pourra avoir écrit le bouquin qui a permis au guide d'avoir les connaissances. Donc c'est un petit peu paradoxal. Alors ça, oui, moi je l'ai appris dans la formation de guide conférencier, qui est une excellente formation. Super intense, super intensive, très très difficile, mais aussi passionnante. Et je t'avoue que j'ai beaucoup ri à travers cette formation. Pour la petite anecdote, on avait nous deux profs. On avait beaucoup plus de profs que ça, mais on avait deux profs, vraiment deux profs principaux, on va dire. Un prof qui est un spécialiste de l'histoire antique, un docteur en histoire antique, qui est aussi guide conférencier. Nos deux profs principaux étaient guides conférenciers en plus d'être profs d'université. C'est là qu'on fait le lien entre la pratique et la théorie. C'est eux qui nous évaluaient sur le terrain. Et donc, j'avais un prof qui nous évaluait sur ce qu'il appelait le paquet cadeau. Donc, le paquet cadeau, c'était la manière de raconter une histoire. Donc, le ton, l'intonation, comment on va se placer par rapport au public, comment on se met devant le tableau, comment on se met devant le monument. C'est un détail qui change tout aussi. Et j'avais un autre prof, l'autre prof principal, qui lui jouait sur ce qu'il appelait le sac à savoir, donc en fait notre culture générale. Et les profs faisaient des analyses de nos visites guidées, et c'était très très drôle, puisque les premières semaines de la formation, on nous a mis en conditions réelles devant la classe. Donc on était une promo de 20, une petite classe pour qu'il y ait un vrai suivi. Et donc il y avait nos profs qui étaient guides, les 19 autres de la classe, et on nous dit voilà, c'est ça ton sujet, dans une semaine tu passes et tu parles 5 minutes. On faisait notre visite. Et là, à la fin, on avait un débrief avec le prof, et le prof nous disait, bon, ça, c'est bien, niveau culture, t'as vraiment apporté une valeur ajoutée, quelque chose qu'il n'y avait pas forcément sur Internet ou autre, mais c'est nul niveau émotion, on sent rien, on a l'impression que c'est un robot, autant prendre un audio guide dans ce cas-là. Et là, on s'est fait clairement clasher par nos profs, hein, qui nous disaient, mais vous êtes nuls, mais écoutez-vous, regardez-vous, faut qu'on vous filme, c'est mort, on parle à un fantôme. Et bon, c'est un peu dur émotionnellement d'encaisser ça, mais au final, on en rigole tous avec le recul. Et donc, nos profs nous ont appris à trouver le subtil mélange entre le sac à savoir et le paquet cadeau. Donc, comment trouver pile la bonne quantité et qualité d'informations pour notre visite et l'amener de la bonne manière. Et justement, ils nous ont montré des conférences avec des pointures sur certains sujets, notamment en archéologie ou autre, et qui étaient mais ennuyeuses à mourir.
Ouais, j'ai déjà expérimenté, ouais.
Voilà, donc tu connais ça, en discutant avec des guides, il y a des guides qui m'ont montré ça, et c'était ennuyeux à mourir. Alors que ben, parfois, un petit jeune, mais qui va très très bien jouer son rôle de guide conférencier, va passionner le même auditoire. Notamment comme exemple, donc on avait des exercices pour travailler sur l'intonation de notre voix, etc. Il nous avait montré un extrait du film Le Spoons, où il y a une phrase qui peut être, bon, en théorie, comme toutes les phrases, mais cette phrase se prête particulièrement bien au jeu. C'est, on pourra peut-être mettre le lien dans le podcast pour les curieux.
Avec plaisir, ouais.
Il y a une scène avec quelqu'un qui dit « Tout condamné à mort aura la tête tranchée. » Et l'acteur le joue de 10 000 manières différentes. Il le dit d'un ton neutre, il dit « Tout condamné à mort aura la tête tranchée. » Après, il dit « Tout condamné à mort aura la tête tranchée. » Après, il pleure à moitié, il sanglote, etc. Et on voit vraiment l'impact de la même phrase selon l'intonation, etc. Et nos profs ont pris ça comme exemple, j'ai trouvé ça excellent. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question.
C'est intéressant, c'est marrant parce que je suis en train d'écouter un livre audio qui s'appelle On Writing, qui est justement sur comment écrire, alors que ce peut être de la fiction ou de la non-fiction. Et il disait le contraire de toi. Il disait ce qui est vraiment très important, c'est les mots qui sont utilisés. Et justement, pour révéler si un texte est bon, alors en l'occurrence, quand tu le fais devant un auditoire, c'est pas vraiment la même chose parce que tu fais pas du tu ne récites pas quelque chose en principe, même si ça t'as peut-être tes notes ou tes guidelines. Il disait le pour savoir si un livre est bon ou pas, il faut le faire lire à quelqu'un d'autre avec le ton le plus neutre possible. Et si ça t'emmerde, ça veut dire que ton bouquin est emmerdant. Si même avec cette voix super pourrie et monotone, t'es intéressé par le livre, ça veut dire que l'essence du livre est intéressante et les mots que t'as choisis sont bons. Je trouvais ça intéressant. Alors c'est vrai que c'est plutôt pour si on écrit quelque chose que si on présente quelque chose dans une conférence. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir ces deux aspects justement soulignés, quoi.
Bah, c'est justement aussi à travers le storytelling, placer des anecdotes, utiliser le bon ton, choisir les bonnes références pour bien cibler son public et choisir des exemples qui parlent, des comparaisons qui parlent, etc. Un bon guide peut te rendre n'importe quel sujet intéressant parce qu'il va savoir trouver les bonnes anecdotes et il va savoir dans son discours à quel moment et avec quelle intonation les utiliser. Je ne pense pas être arrivé à ce niveau-là, mais je prends l'exemple de mes profs, par exemple, qui sont vraiment des pointures. Eux, tu leur demandes de te faire une visite guidée sur, je sais pas, les cailloux à la plage. T'as envie d'acheter un bouquin sur les cailloux à la plage, quoi.
C'est un sujet extrêmement intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on va commencer un podcast sur les cailloux à la plage. Ça va être passionnant. Bah oui, t'es guide conférencier, tu vas rendre ça passionnant. On va avoir des millions d'auditeurs. Non, mais plus
J'accepte
précisément,
le
c'est.
défi. On fait un podcast sur les cailloux.
Prends pas ça trop au sérieux, je serais foutu de le faire. Non mais je suis d'accord avec toi et c'est je pense que ça a vraiment un rôle. On va basculer gentiment sur le rôle social justement du guide conférencier ou plutôt ce que à la rigueur, ce que des questions que je me pose au niveau du rôle social qu'ils peuvent avoir. Est-ce que tu as avant de basculer sur ça qui est peut-être un peu plus philosophique quoique, est-ce que tu as des conseils à donner aux auditeurs qui seraient justement partant pour s'intéresser. Je sais qu'on a pas mal d'étudiants qui nous écoutent, qui sont déjà en études d'anthropologie ou en sciences sociales, ou alors qui sont en train de se demander s'ils veulent le commencer. Tu leur dirais quoi en version courte? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment tu peux les motiver?
Alors déjà, le métier de guide, c'est un métier qui regroupe des profils extrêmement variés. Dans notre classe, les âges, ça allait de 19 à 48 ans. Et on avait aussi bien des docteurs qui étaient en formation de licence guide conférencier, puisque on ne peut pas obtenir la carte en dehors de cette licence. Donc pour être habilité, ils devaient, malgré leur titre de docteur, avoir cette carte. Et on avait des gens qui venaient de tous horizons. Alors c'est bien sûr un plus pour ceux qui nous écoutent, qui sont archéologues, anthropologues, historiens. Ça va être un gros plus, mais on peut très bien ne jamais s'être intéressé avant à l'histoire ou autre et soudainement se dire, ben, moi ça me plaît de partager des choses, d'apprendre toujours, etc. Je tente. Donc ce qui est important du coup pour répondre à ta question, ça va être d'être extrêmement curieux, extrêmement ouvert et de toujours vouloir... Oui, toujours vouloir approfondir. C'est important en fait pour un guide de connaître toujours plus loin que ce qu'il va dire à son public, d'où l'intérêt de la curiosité. Quand on fait visiter une cathédrale, si on fait visiter Notre-Dame de Paris, on peut connaître super bien, et ça va être encore une fois la différence entre un guide tout court et un guide conférencier qui a été bien formé et qui travaille bien, c'est que le guide conférencier, il va connaître l'ensemble du sujet. Il va connaître par cœur la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais il va aussi savoir contextualiser la construction des cathédrales en France, t'expliquer pourquoi, comment, etc. Comparer plusieurs cathédrales, te donner des exemples dans d'autres pays, etc. Et donc, si on n'a pas une certaine curiosité, si on voit juste le sujet, je dois faire une visite du Colisée, j'apprends que sur le Colisée, eh ben, ça va pas. On va pas pouvoir répondre aux questions. Toutes les questions qu'on n'aura pas anticipées, on ne pourra pas y répondre. Donc, curiosité, c'est vraiment un élément clé. La curiosité, l'envie, la passion, et ouais, principalement ça. On peut aussi être timide et être un très bon guide. Il y a je connais des guides qui sont timides dans la vie de tous les jours et qui sont impressionnants sur le terrain. Donc ça, faut pas non plus que ça vous arrête si c'est ça qui vous fait peur.
De toute façon, je suppose que tu as la formation qui aide à combler tes faiblesses, en fait.
Ah bah, il n'y a pas vraiment le choix, ouais, quand tu te retrouves
Ben, c'est ça.
devant un
Mais
groupe
c'est une
de
bonne
monde.
façon d'apprendre en même temps,
Oui, c'est
hein.
ça, on apprend dans le feu de l'action, ouais.
Ok. Alors, tout ça, c'était cool. C'était très intéressant. J'ai envie de te dire que le dernier point est celui qui m'intéresse le plus, justement. Tu le sais, alors c'est vrai que t'écoutes Voyagecast et t'écoutes peut-être Entre Story, mais si on fait ça, effectivement, c'est pour le fun, mais je pense qu'il y a aussi, chez beaucoup de gens qui vont participer à Entre Story, la volonté, pas vraiment de changer les gens, mais d'amener de la curiosité chez les gens et d'amener aussi de l'ouverture chez les gens. Et je pense que justement, d'interviewer des gens qui ont été dans des pays lointains, ça peut amener de l'ouverture, parce qu'on se dit qu'ailleurs, c'est ni mieux ni pire, c'est différent, mais ça a la même valeur que chez nous. Et puis, en parlant de sujets anthropologiques plus précis, peut-être, je sais pas, quand on a parlé des SDF à Paris, justement, d'amener des autres éclairages sur la réalité et d'aller plus loin que ce que tu vois dans les journaux, etc. Et je me dis, le rôle de guide conférencier, est-ce que tu arrives à amener ça chez les gens qui viennent, tu vois? Alors, en même temps, enfin, j'ai déjà posé cette question et après je vais souligner la contradiction qu'il y a dans tous ces trucs-là, qui est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais déjà, est-ce que tu arrives à susciter justement, est-ce que les gens vont acheter un bouquin sur l'Irlande une fois qu'ils ont été en Irlande avec toi?
Ouais, c'est le genre de retour que j'ai déjà eu par email que oui, les gens sont venus en Irlande parce que bon, même sans s'intéresser particulièrement au sujet, on sait que c'est beau, on sait qu'il y a des grandes étendues vertes, on sait qu'il y a des belles falaises, on sait,
Il y a de la
etc.
Guinness.
Il y a de la Guinness, non négligeable. Donc on vient un petit peu pour les clichés sans forcément savoir. Et c'est vrai que pendant une semaine, je vais être avec eux H24 et je vais leur raconter beaucoup de. Je vais leur parler des traditions, de l'histoire, je vais leur montrer au quotidien comment vivent les Irlandais, etc. Je vais partager ma passion du voyage en général, mais aussi de ce pays-là avec eux. Et c'est vrai que j'ai déjà eu ces retours-là. Ouais, j'y retournerai et j'y retournerai plus longtemps et j'ai acheté des livres sur le sujet ou autre. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Je pense que c'est assez courant et c'est un des meilleurs retours qu'on puisse avoir en tant que guide, de se dire bah cool, c'est pas quelqu'un que j'ai intéressé sur une durée courte, c'est quelqu'un qui va approfondir le sujet et qui se rappellera de moi comme la personne lui ayant donné envie d'apprendre ça.
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, alors après c'est très spécifique, tu parlais de cathédrales par exemple. Alors c'est très compliqué les cathédrales, je trouve ça joli, mais en même temps c'est flippant et en même temps c'est de la religion aussi. Est-ce que tu as déjà eu, je sais pas, des bouddhistes, des musulmans, je sais pas, quelqu'un qui est d'une autre confession, tu vois, qui a été visiter la cathédrale peut-être juste pour son côté architectural. Alors pas pour dire que tu les as convertis au christianisme, hein, c'est pas du tout le but, je pense et j'espère, mais de montrer parfois justement une ouverture, tu vois, en se disant ben que je sois chrétien ou pas, c'est une culture à laquelle il faut m'intéresser et qui a bien sûr ses côtés bien dégueulasses, mais aussi des choses intéressantes à nous apprendre. Oui, parce que bon, il faut être honnête, hein, c'est bien dégueulasse quand même.
Ouais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de guerres à travers le monde qui éclatent pour des motifs religieux, officiellement ou officieusement, alors que les religions, peu importe laquelle, prônent toutes l'amour, la tolérance, la paix. C'est un peu paradoxal.
Alors, il y a de ça, je te dirais, le pire, c'est le comportement des religions en elles-mêmes, tu vois, parce que moi, je te dirais, en réalité, le capitalisme s'est beaucoup servi de la religion pour faire la guerre, tu vois, mais bon, enfin bref, on pourrait partir dans des discussions super compliquées, mais en tout cas, c'est vrai que il reste que c'est différent, tu vois, c'est pas la même culture quand tu viens d'ailleurs, quoi.
Alors, j'ai pas fait visiter énormément d'églises et de cathédrales. J'en ai fait visiter quelques-unes, mais De manière générale, donc j'ai pas été dans cette situation précise, dans cet exemple-là, mais de manière générale, j'ai déjà fait beaucoup réfléchir les gens sur des, et j'ai déjà réussi à faire en sorte que des gens qui arrivent dans mon groupe avec beaucoup de préjugés ressortent finalement avec moins de préjugés.
On veut des noms.
Non, des noms,
Non,
je peux
plus
pas, je peux.
précisément, est-ce que tu as justement un exemple précis là-dessus? Parce que
Ouais.
c'est mon exemple de la cathédrale, ben voilà, t'as jamais eu cet
Alors.
exemple-là, mais
La
t'en as un
cathédrale,
vrai?
j'ai pas, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, c'était d'ailleurs, je sais pas si je dois considérer ça comme drôle ou triste, mais ça m'a mis bien dans le bain. La toute première fois que j'ai côtoyé un groupe, j'étais encore en formation pour une agence, l'agence avec laquelle je travaille en Irlande. Ils m'ont mis en groupe de formation, c'est-à-dire que je suivais une guide expérimentée sur le circuit. Et donc je connaissais déjà mon sujet, je connaissais l'Irlande, mais j'étais là pour voir combien de temps duraient les trajets, comment ça fonctionnait avec les hôtels, etc. Et dans ce groupe-là, donc le premier groupe que je côtoyais, eh bien c'était un groupe d'anciens combattants de la guerre d'Algérie. Et qui dit anciens combattants de la guerre d'Algérie, français, eh bien forcément, ils ont vécu des choses horribles en Algérie, ils ont eu des amis qui se sont fait torturer, etc., qui se sont fait tuer, massacrer. Bon, d'un autre côté, eux aussi, ils étaient à la guerre, eux aussi ont fait ces mêmes choses horribles. Mais voilà, il y a une certaine rancœur qui les a marqués à vie, et c'était parfois impossible de prendre ne serait-ce qu'un exemple pour comparer deux cultures et de dire, comme dans la religion musulmane, sans entendre terroriste dans le quart ou des trucs comme ça. Bon, c'était un petit peu lourd. Ou d'avoir toujours des vieilles blagues bien lourdes, bien grasses, bien islamophobes. Ça, c'est quelque chose qui est assez agaçant en tant que guide, et on y est souvent confronté, on voit toutes sortes de gens, et justement notre rôle aussi c'est d'amener à cette tolérance, de pas, on ne doit pas réagir, on doit pas s'énerver, attaquer les personnes personnellement, mais on doit réussir à leur donner des exemples, et voilà, à leur dire, est-ce que tu penses vraiment que tous les Arabes sont musulmans, et que tous les musulmans sont intégristes, et donc que tous les Arabes sont intégristes? Ou est-ce que tu penses que c'est pas un énorme cliché ce que tu viens de dire? Donc voilà, c'est ce genre de raisonnement qu'on essaye d'avoir.
Et donc tu arrives à avoir un résultat effectif, on va dire, à défaut d'être durable parce que tu peux pas le contrôler, mais tu arrives justement à faire évoluer. Enfin là, on peut vraiment utiliser le terme évoluer, je pense, les mentalités.
Ben la bêtise humaine est quand même infiniment puissante.
Ah oui, hein.
Donc parfois, il n'y a absolument rien à faire, mais parfois, ça arrive, je sens entre le début et la fin de la semaine une ouverture d'esprit, et même des fois, des gens qui me disent, ouais, tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as dit, je suis assez d'accord avec toi, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, et ça fait aussi plaisir, ouais. Ça fait d'ailleurs aussi partie des choses que je trouve gratifiantes dans le métier de guide, que je considère comme tous les avantages, au-delà de l'hôtel, des voyages payés, etc. Réussir à ouvrir l'esprit de certaines personnes.
Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ceci dit, je pense que c'est la même chose au niveau du podcast, au niveau de plein de choses. Il faut admettre avec humilité notre niveau. Et c'est vrai qu'on va rarement changer les gens tu sais, en une émission, le gars va changer tout d'un coup. C'est pas le cas. Par contre, on va être possiblement un des centaines d'éléments qui va faire que la personne va avoir quelque chose de différent, tu vois. On est dans un moment avec Trump, avec pas mal de choses où on parle beaucoup de l'influence des médias, etc. Et je pense que justement, plus il y a d'influences diverses, et plus les gens vont pas forcément changer d'avis, mais être plus conscients de l'avis qu'ils ont et avoir plus de raisons d'avoir leur avis. Enfin bref, c'est vrai que
Ouais.
c'est des questions très complexes, on va dire.
Je vois ce que tu veux dire, et justement, moi, le fait d'exercer ce métier de guide, je vais prendre par exemple l'exemple concret de l'Irlande. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais en Irlande, l'Irlande, c'est un pays qui a connu une histoire relativement sanglante et mouvementée, notamment les conflits entre les Anglais, les Irlandais, etc. Et entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, donc le sud de l'Irlande, il y a vraiment des conflits qui perdurent encore aujourd'hui. Il y a plus de bombes
Ah,
qui
puis on parlait de
explosent.
religion là.
Comment? Oui,
On
voilà,
parlait de
justement.
religion avant.
Voilà, entre les protestants et les catholiques. La République d'Irlande, la partie sud de l'Irlande, en dessous de Belfast, est à majorité catholique, alors que la partie nord de l'Irlande est à majorité protestante. Bon, ça évolue, ça tend à être égalisé, mais ça a très longtemps été comme ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés et qui vont arriver et qui vont dire: non, mais de toute façon, les protestants, c'est tous des gros connards et c'est eux qui ont posé des bombes les premiers, c'est eux qui ont fait ça, 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 ça. Eh ben, justement, non. Moi, en lisant des bouquins, en préparant mes premiers séjours en Irlande en tant que guide, j'ai appris les faits, objectivement, qu'est-ce qui s'est passé, qui a posé une bombe à quel endroit, etc. Mais j'ai eu la chance aussi de rencontrer, par exemple, les chauffeurs de car avec qui je travaille, qui sont irlandais et qui parfois viennent d'Irlande du Nord. Et j'ai échangé avec eux et je leur ai dit: à cet âge, à cette époque, à telle année, t'avais quel âge, qu'est-ce que t'as vécu toi? Et là, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit des choses horribles ou alors moins horribles que ce à quoi je m'attendais. Et ça me permet de me mettre des deux côtés et de me dire: ah, ok, bah, c'est beaucoup plus complexe que ça, et de nuancer mes propos. Et quand je raconte l'histoire de l'Irlande et les parties un petit peu tumultueuses de l'histoire de l'Irlande, j'essaie toujours de donner les deux côtés du miroir.
Ouais, c'est ça qui est important, hein, et c'est ça justement que tu as tendance à pas avoir sur les médias en général, je pense, et encore pire sur certains médias qui eux vont vraiment avoir clairement un seul angle et vont le garder tout le temps. Donc de ce point de vue-là, si, c'est intéressant, et je pense que il vaut mieux faire partie de ceux qui plantent des petites idées un petit peu anarchistes chez les gens que d'être de ceux qui confirment leurs idées. Ça, c'est un bon angle, je pense. Et l'autre angle aussi, c'est l'angle du patrimoine. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'ai pas vraiment d'avis définitif, mais tu sais, c'est comme à Berne un petit peu. Je passe tous les jours devant des trucs qui sont historiques et je m'en fous, tu vois. Et la plupart du temps, si tout d'un coup, je sais pas, ils veulent détruire ce truc pour mettre un grand centre commercial, honnêtement, j'en ai pas grand-chose à faire. Par contre, à partir du moment où tu connais l'histoire du truc et où tu t'intéresses, je sais pas, à l'histoire du bâtiment, justement aux histoires qui se sont passées, tout d'un coup, la statue qui n'a aucune importance va en acquérir. Et je pense qu'à ce niveau-là, les guides conférenciers peuvent avoir une vraie importance justement de revalorisation du patrimoine. Ça sonne très chiant, mais je pense que c'est très vrai quand même.
Je trouve pas que ça sonne très chiant, au contraire. Je pense que oui, c'est
Je sais
oui.
pas, quand j'entends patrimoine, je sais pas, je pense toujours que c'est un truc vieux et ennuyant, tu vois. C'est pas vrai,
Alors
hein, je le sais,
non,
mais...
justement. Alors peut-être que ouais, on va définir ça vite fait. Le patrimoine, il y a le patrimoine immatériel, ce à quoi les gens ne pensent pas forcément. C'est tout ce qui va être tradition. Donc les vêtements traditionnels, la musique traditionnelle, etc., ça rentre dans le cadre du patrimoine et c'est un sujet qui est abordé par les guides conférenciers. Et il y a le patrimoine matériel, tout ce qui est bâtiments, statues, œuvres d'art, etc. Et donc, comme tu dis, c'est aussi le rôle du guide de faire prendre conscience aux gens que ce sont des bâtiments ou des statues, etc., importantes. Et pour reprendre ton idée de si c'était détruit ou autre, bah, ça ne me ferait pas grand-chose, alors que via la mémoire, je me rappelle de ce que le guide m'a dit, ça change mon regard. Il y a ce qu'on appelle le dark tourisme, donc le tourisme de mémoire. C'est tout le tourisme qui est organisé autour des mémoriaux, donc par exemple le mémorial du 11 septembre à New York, ou le mémorial de Caen en France, qui parle de la guerre mondiale, enfin des guerres mondiales. Donc c'est ce genre, ou même le fait que l'on puisse visiter des lieux très sinistres, mais très importants de notre histoire, comme Auschwitz-Birkenau, les camps de concentration, etc. Il y a un véritable rôle, là aussi, le guide doit réussir à faire comprendre aux gens, à faire réaliser aux gens l'horreur de ce qui s'est passé, et pour réussir à faire avancer les gens, on apprend de nos erreurs, tous, normalement, dans la vie. En théorie. Et justement, c'est aussi en se rappelant de ces visites guidées et de ces choses horribles qu'on a vues dans les musées ou sur les sites, qu'on va éviter tout de suite d'aller vers la violence, etc. Donc là aussi, le guide joue un rôle important. Je pense que, bah, ça va faire très pompeux aussi, mais dans certains cas, un très bon guide qui va avoir une excellente visite sur un sujet précis, etc., peut parfois changer la vie de quelqu'un en lui faisant prendre conscience de quelque chose de très important, et effectivement en faisant en sorte que la personne qui était raciste, bah, le soit un peu moins parce qu'elle comprenne un peu mieux l'autre culture, qu'elle s'y intéresse, ou que la personne qui avait des idées extrémistes, ben, le soit un peu moins aussi parce qu'elle comprenne ce à quoi ça mène, l'horreur, la violence, la mort, les génocides, etc. Et donc ça peut, ouais, on peut vraiment en tant que guide avoir un réel impact sur la vie personnelle des gens. Nous, on ne se rappelle pas de toutes les personnes qu'on voit défiler, mais quand on est un bon guide, les gens se rappellent de nous, même parfois des années après. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah ouais, il y a 10 ans, j'avais un guide à Rome, il était excellent, il était comme ça. » Les gens peuvent même te le décrire physiquement, te dire parfois son prénom et tout, parce que tu les as marqués.
Je pense que c'est un vrai rôle. Il ne faut pas oublier que tous les gens à qui on parle vont voter un jour. Donc forcément, ce qu'on va leur dire va potentiellement, pas leur faire prendre de bons ou de mauvais choix, mais disons, faire éviter les extrêmes, ce qui est déjà plutôt pas mal,
je pense.
Ceci dit, il y a une contradiction, et là, on part vraiment dans la philosophie et dans les choses très compliquées, qui est le fait que, est-ce que des gens qui sont si extrémistes ou si qui ont, tu vois, qui ont vraiment une seule idée, tu vois, ils sont fixés, c'est décidé, ils ont entendu un jour quelque chose, c'est vrai, voilà. Est-ce que ces gens-là vont écouter des podcasts? Est-ce qu'ils vont aller chercher des infos ailleurs que dans les grands canaux que tout le monde connaît? Et est-ce qu'ils vont faire des visites avec des guides conférenciers? Et là, je pense que c'est toute la complexité du truc, tu vois. Je me dis, en voyage, tout le monde n'est pas ouvert, tu vois. Mais il y a déjà plus d'ouverture chez quelqu'un qui voyage que quelqu'un qui dira « Oh non, moi, je reste dans mon village, je ne bougerai jamais », tu vois. Et donc, du coup, tu as déjà des gens qui sont... presque d'accord avec toi. Pas vraiment, mais presque.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi aussi sur ce point-là. Ouais, les gens qui sont vraiment pour qui tout est perdu, tout espoir d'ouverture d'esprit est perdu, vont pas forcément aller écouter ton podcast. Après, il y a la magie d'Internet. C'est parce que l'expression que j'aime beaucoup, sur un malentendu, ça peut marcher.
Ouais.
Il peut tomber par hasard sur ton podcast, cliquer, écouter et puis se laisser convaincre. Mais c'est vrai qu'il ne va pas forcément aller chercher... il part du principe qu'il a raison, donc il ne va pas aller chercher les avis contraires.
C'est ça, alors que nous, peut-être, on imagine... Enfin, on ne le fait pas pour tout, hein. Clairement, on est loin d'être parfait, mais c'est vrai que je pense avoir des idées plutôt précises sur des choses qui ne vont pas forcément m'empêcher de lire des bouquins sur le sujet, qui vont justement me dire que souvent, ma réponse était beaucoup trop simple et je voyais le problème beaucoup trop simplement. Et je trouve que c'est vraiment un point de vue très compliqué. Alors oui, il y a le côté Internet. Je pense que plus on remplit Internet de bonnes choses, entre guillemets, dans lesquelles je n'ai pas trop de peine à placer entre story, je pense, au niveau du, pas forcément au niveau du contenu, mais de la volonté qu'il y a derrière, plus on contrebalance un petit peu le tas de merde qui est mis en ligne chaque jour. Donc je pense que ça reste bien, mais c'est vrai que c'est toujours un truc très compliqué. Je sais que les gars de Podcast Science, etc., tu sais, qui mettent en avant certaines valeurs scientifiques, tu vois, notamment la compréhension des statistiques, la compréhension de ce que c'est une étude scientifique, etc., ou de scepticisme scientifique, un podcast avec Jean-Michel Abrassard qui est venu, c'est que le problème qu'on se dit toujours, mais finalement, les gens qui nous écoutent, ils sont déjà assez d'accord pour être ouverts pour nous écouter. Et donc, en fait, comment on fait pour toucher les autres? Et c'est très compliqué.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que là, ça va plus se jouer sur la chance. Ça va être, par exemple, le mec qui vient pour faire plaisir à sa femme, qui, elle, est ouverte d'esprit, mais qui, lui, n'est pas du tout. Et il va arriver dans ton groupe par la contrainte. Et puis, finalement, si tu arrives à bien jouer ton rôle de médiateur, tu vas réussir à le faire changer d'avis. Et il faut plutôt compter sur ce genre de heureux hasard que sur la personne qui, d'un coup, se dit « Eh, mais en fait, je suis con, je suis trop fermé d'esprit
!» Oui, puis bon, en parlant aux gens qui sont un minimum ouverts d'esprit, eux-mêmes vont pouvoir porter le truc plus loin, etc. Donc si, je pense qu'il y a un vrai rôle quand même intéressant. Et sur le patrimoine, je trouve aussi que c'est vraiment quelque chose d'important, notamment, on en parlera peut-être la prochaine fois aussi, mais on vient dans un monde où peut-être le matériel a de moins en moins d'importance et où on ne comprend pas l'importance qu'ont les choses. Et là, quelqu'un qui t'arrive à te raconter une belle histoire sur un monument... lui donne sa vraie valeur.
Exactement.
Qui n'est pas monétaire ou quelque chose comme ça, qui est vraiment totalement immatériel, quoi.
Ouais, je pense qu'on aura un débat assez intéressant dans le prochain podcast là-dessus.
J'espère. Alors du coup, là, on a été super sérieux, on a été dans des thématiques compliquées. T'as dit que t'avais peut-être
Il faut bien faire mine d'être sérieux pour les auditeurs.
Si, mais je pense qu'on l'effleure pas bêtement, tu vois, mais qu'on l'effleure justement. Ça serait super intéressant d'avoir des débats comme ça. Et en même temps, des fois, je me dis, ces débats, il y a que les gens qui sont intéressés autour du débat qui l'écoutent, donc on retombe dans le même problème en fait. Mais écoute, on finira bien par changer les choses un jour. Et en tout cas, si on n'arrive pas, on aura au moins essayer d'aller dans la bonne direction, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, est-ce que tu as justement des petites anecdotes? Parce que comme tu as dit, tu as rencontré énormément de gens qui sont différents. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu as eu des histoires marrantes justement pendant tes séjours en Irlande ou je sais pas où?
Ah oui. Bah déjà, part du principe que dans chaque groupe, il y a quelque chose. On a des groupes de 50. Dans chaque groupe, il y a... on a eu des cours là-dessus aussi qui étaient très amusants en licence sur la typologie des touristes. Il y a toujours celui qui est dans le groupe pour essayer de montrer qu'il en sait plus que le guide. Et quoi que
Ah,
tu
ça doit
dises,
être chiant, ça.
il va te contredire ou il va vouloir aller plus loin, chose que tu aurais peut-être pu faire, mais tu as un timing à respecter ou tu veux pas ennuyer tout le monde ou autre, mais lui, il va le faire à ta place et il va te demander pourquoi tu n'en as pas parlé. Tu as toujours celui qui a ses théories farfelues et qui croit aux Illuminati et tout ce que tu veux. Bref, et ouais, pour te raconter une anecdote sur ma dernière saison en Irlande, parfois, alors c'est vrai, on a eu des cours aussi là-dessus sur la sociologie du tourisme. Comment est la sociologie et la psychologie du tourisme? Il y a l'effet de groupe, donc on va pas rentrer là-dedans en détail, mais tous nos auditeurs savent probablement qu'on ne se comporte pas de la même manière quand on est seul ou quand on est dans un groupe. Eh bien, l'effet de groupe va avoir tendance, dans le cas du tourisme, entre guillemets, de masse, les groupes, les voyages organisés, ça va avoir tendance à, je cherche un adjectif qui ne me vient pas en tête, à débiliser, entre guillemets, à rendre très très bête, à infantiliser, voilà, à infantiliser les gens. Ils vont avoir des réactions qu'ils n'auraient jamais eues dans la vie de tous les jours. Et pour donner un exemple concret, donc dans ma dernière saison, durant ma dernière saison en Irlande, j'ai eu un groupe avec, je suis désolé, ça va faire très 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 cliché, alors que justement, moi, mon but c'est de casser les clichés, mais bon.
On les cassera dans les prochains épisodes, t'inquiète pas.
Voilà, c'était des Marseillais.
Ah.
C'était des Marseillais qui avaient le sang chaud. Il y
Tu veux
avait.
rentrer en France une fois ou tu veux rester en Allemagne? C'est juste pour savoir, hein.
Il y avait une partie du groupe qui était Marseillais et l'autre partie qui venait d'Ardèche. Bon, le groupe d'Ardèche, ils étaient tout pépères, tout tranquilles. Et le groupe de Marseillais, bah, je suis désolé, c'est vraiment les clichés, mais. Ils buvaient plus que les autres, ils parlaient plus fort que les autres, ils avaient le sang chaud, ils voulaient toujours se faire marquer, et voilà, ils voulaient décider, ils voulaient prendre ma place. Et bon, c'était un petit peu lourd. Et un matin, je monte dans le bus. En plus, il était tôt, on partait pour le Connemara, donc c'est une journée qui est très longue. Il était même pas 7h du mat, donc j'arrive dans le bus, machin. J'essaye de faire croire à tout le monde que je suis de bonne humeur et que j'ai bien dormi, alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, je prends le micro, je salue tout le monde, tout ça. Et là, j'entends « Non, mais c'est ma place, mais pousse-toi, mais qu'est-ce que t'as ?» et tout. Vraiment, mais comme des gosses. En fait, comme des gosses dans le car pour aller au collège quand le car emmène la classe à la piscine, quoi. « Non, mais madame, il m'a volé ma classe, il m'a volé ma place et tout. Non, mais c'est moi qui suis ici. » Bon, je les ai regardés un petit peu, ouais, un petit peu incrédule, quoi, de voir des mecs de 60 ans, voire même peut-être même un peu plus, commencer à hausser le ton et à s'insulter, genre vraiment violemment. Et ils en sont arrivés aux mains, en fait. Je suis intervenu parce qu'il y avait le Marseillais qui voulait taper sur l'autre mec de 60 ans, quoi. C'était qui en plus était handicapé.
Oh mon Dieu.
Donc non, mais tous les clichés. Et alors là, t'es là. T'as genre 21 ans, il est 6h50 du mat, t'es dans un car avec 50 personnes qui, eux, ont 60 ans, qui sont en train de s'insulter et de se taper pour une histoire de place. Et tu fais, oh là 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 là. Bon, alors les enfants, toi tu vas là, toi tu vas là. Je vous rappelle que vous avez acheté une place dans le car, donc le droit d'avoir une place tous les jours, mais pas une place attitrée. Donc c'est important de changer pour ceux qui sont malades et qui veulent aller devant, etc., etc. Pour ceux qui veulent prendre des photos et être mieux placés. Donc comme tous les jours, on va tourner et c'est moi qui décide où est-ce que vous allez. Donc toi tu vas là, toi tu vas là. Donc j'ai dû faire ça, je l'ai fait. Puis voilà notre car qui repart. Donc je dis au chauffeur c'est bon, on peut y aller. On part et puis on fait une première pause, un arrêt photo, boutique, etc. À peu près 2 heures après. Et là, je vois le groupe de Marseillais qui vient me voir et qui me disent non, mais tu sais, mon petit Maël, c'est eux qui ont commencé, hein, c'était pas de notre faute. Et là, je me dis mais purée, mais quel âge ils ont, quoi? C'est maman, c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui. Et je me dis mais c'est vraiment hallucinant enfin, je me dis mais quelle maturité ils ont, ces gens, à 60 ans. Et là, il y a l'autre groupe. L'autre groupe qui vient me voir, mais pareil, 2 minutes après, et qui me dit, mais Maël, qu'est-ce qu'ils sont venus te voir? Qu'est-ce qu'ils sont venus te dire? En fait, on a vu qu'ils étaient venus te voir, les Marseillais, mais avant toute chose, c'est eux qui ont commencé, hein, c'est pas nous, hein. Nous. Mais non, mais je veux pas savoir qui a commencé. C'est tout, c'est passé. On a maintenant, vous avez vos places et voilà, on va continuer la journée tranquillement. Et bon, bah voilà, après toute la semaine, ils voulaient pas s'asseoir à la même table. Quand il y avait des animations, des concerts, des trucs de prévu, c'était ah non, le groupe des Marseillais d'un côté, le groupe des Ardéchois de l'autre.
Non mais la
C'était.
prochaine fois, tu fais comme tout le monde, tu sors ton téléphone et tu filmes et tu balances ça sur YouTube, c'est tellement plus drôle, tu vois.
Non, mais je te jure, des fois, j'ai l'impression d'être. Ouais, d'avoir une garderie avec moi, quoi. Et puis, il y a toujours aussi ceux qui supportent pas d'avoir un guide de 20 ans. Et
Ah, t'es trop jeune, quoi.
ouais, ça joue un peu en ma défaveur. Donc, ouais, je suis trop jeune, mais bon, l'histoire de l'Irlande, je l'ai étudiée pendant plusieurs mois, je suis passionné, j'ai vécu là-bas. L'anglais, je le parle couramment. Si l'agence me fait confiance pour la deuxième, troisième fois, bah, c'est qu'il y a des raisons. Je sais ce que je fais, je sais où je suis, quoi. Et si lui, il est là, c'est pas du tout qu'il est plus bête que moi, mais c'est que en théorie, il connaît pas forcément le sujet. Ou s'il connaît le sujet même aussi bien que moi, ce qui est possible, il parle pas forcément la langue. C'est peut-être pour ça qu'il est là et qu'il a besoin de mon aide. Dans tous les cas, il n'est pas là par hasard. Et s'il a signé un contrat, bah, il doit suivre les règles et pas faire le petit chef. C'est pas parce qu'il a été patron d'entreprise dans sa vie et qu'il est riche, c'est pas parce qu'il est plus âgé que moi ou autre qu'il doit faire sa loi.
Alors, en fait, tu devrais faire comme moi, tu devrais te laisser pousser la barbe.
Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, ça a fait
Non,
mourir de
sérieux, tu
rire.
l'as fait vraiment?
Ouais, je l'ai vraiment fait. Ça a fait mourir de rire mes potes de retour en France qui m'avaient jamais vu vraiment avec une longue barbe, qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ton délire? Et ouais, le truc, c'est qu'il y a même des gens qui m'ont dit à la fin du séjour, j'évite de dire mon âge parce que bah, malheureusement, ça décrédibilise. Il y a des gens
Forcément.
qui m'ont dit, ah ouais, pour un jeune de 25-26 ans, tu te débrouilles hyper bien. Et j'avais 21 ans à l'époque, mais j'avais la barbe.
Hey, je dis, en plus de ça, c'est pas la. Alors moi j'ai la barbe et je l'ai depuis longtemps, mais je travaillais dans un magasin où je vendais des poissons d'aquarium d'eau de mer, tu vois. Et ça me faisait royalement chier parce que les clients arrivaient et moi je connaissais les poissons. C'était moi qui je faisais tout, tu vois. Donc je les connaissais bien. Et les mecs ils allaient chaque fois avec mon patron parce qu'ils pensaient que j'étais trop jeune, quoi. Et du coup je me suis laissé pousser la barbe. Et ils allaient parler avec moi. Et truc complètement con, et ça marche. Et c'est pour ça que je disais ça sur le ton de la rigolade, et je savais pas que tu l'avais fait. Comme quoi,
Mais
hein, la
je l'ai
barbe, hein,
vraiment fait,
pensez-y.
mais est-ce que tu penses que si je me laisse pousser la barbe de nouveau, mon blog va avoir des stats plus importantes et nos podcasts ensemble vont avoir un impact plus fort?
Oui, parce qu'on pourra faire le podcast des barbus, en fait.
Ah, pas mal.
Tu vois, c'est cool.
C'est
Et
un
des
très bon
fois, c'est
truc.
comme j'ai dans ma nouvelle place de travail, on commence à parler de n'importe quoi. Mais si vous êtes toujours là, de toute façon, les auditeurs, ben c'est parce que vous nous aimez nous entendre parler. Donc ça va, on est entre nous, on peut parler. À ma boîte, il y a un gars qui a la barbe et qui dit, mais ce qui est super cool quand t'as la barbe et surtout quand tu t'habilles en noir, c'est que les gens dans l'atelier te prennent pour un métalleux et ils te font pas chier. Parce qu'ils se disent ah si tu vois si je l'embête un peu trop il va me casser la gueule tu vois alors que c'est pas du tout vrai
Oui,
mais
clairement, oui.
et des fois franchement oui effectivement l'apparence physique et moi je sais que si, honnêtement si je me coupe la barbe aujourd'hui je pense que je meurs de rire parce que je perds 10 ans quoi.
Ah, mais clairement, hein. Moi, j'ai ce problème-là aussi, j'ai toujours l'air plus jeune. Là, j'ai 22 ans, j'ai une barbe et je fais tout juste les 22, mais sans la barbe, je fais 18.
Exactement. Exactement. Donc voilà. Alors effectivement, un conseil pas forcément applicable de la même manière pour nos auditrices, hein,
C'est
mais
exactement ce que j'allais dire, un conseil qu'on peut ne pas donner à nos auditrices, se
oui.
laisser pousser la barbe.
Quoique, on ne sait pas. On ne sait
Quoique,
pas.
oui, voilà.
Écoutez,
Quoique.
si vous êtes, si une de nos auditrices s'est laissée pousser la barbe et a eu un meilleur résultat dans son travail, eh ben on est prêt à en parler sur EntreStory.
Ah, mais
Alors c'est
totalement, on
dit.
l'interview.
Et il faut qu'on l'interviewe, voilà. De toute façon, c'est de l'audio, donc ça passe très bien. trêve de plaisanterie, on va gentiment clôturer l'émission parce que on avait dit, je crois que j'avais dit que quoi, c'est 22 minutes le temps parfait pour un podcast et on est à
Ça,
plus d'une heure.
sachant qu'on est à 1h27.
Exactement. Donc tu vois que je suis ce que je dis, ce qui tombe très bien. Non, mais je pense qu'on a fait bien le tour. C'était super instructif. On va peut-être juste parler. Toi, tu vas rester avec nous en tout cas un moment. Sur EntreStory et on va donc t'utiliser parfaitement en tant que guide conférencier, vu que tu vas revenir nous parler. Alors au début, dans la prochaine émission, on va parler justement de la technologie, hein, comment ton métier va disparaître dans les prochaines années. Et puis ensuite, tu vas plutôt nous parler, alors peut-être tu vas décider au début de parler plutôt de l'Irlande ou plutôt de l'Italie, hein, tu vas nous faire la surprise et justement nous prendre quelques monuments ou quelque chose qui t'ont intéressé et nous parler de ces choses-là. Et je pense que ça peut être intéressant parce qu'on a pas mal d'auditeurs maintenant qui sont, en Afrique, au Québec, etc. et qui n'auront même pas, je pense, facilement l'occasion d'aller voir ces choses-là. Et moi, en plus, j'ai jamais foutu les pieds en Irlande. Donc, de toute façon, ça m'intéresse et on profitera de ton expertise et ta capacité à faire des recherches et à nous faire du storytelling. Et bienvenue sur Entre Story, du coup, ça me fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un de plus. Je crois que tu es le premier à nous rejoindre depuis Julie, mais en réalité, il y a déjà deux personnes qui nous ont rejoints depuis, mais qui ne sont pas passées pour l'instant sur le podcast encore, parce qu'on bosse sur le contenu qu'on va faire. Mais en tout cas, tu es le bienvenu dans l'équipe, ça nous fait plaisir.
Eh ben, merci à toi, ça me fait aussi très très plaisir de... J'allais dire de faire connaissance. Je ne ferai pas personnellement connaissance avec les auditeurs d'Anthrostory, mais d'être une nouvelle voix.
Et on ne sait pas si on est assez, on pourra réserver l'Olympia et puis enregistrer en live devant des centaines de milliers de personnes en plein délire. On ne sait pas.
Ouais.
Alors on sait partie... où on est, on ne sait pas où on va. Tu vois
la partie en plein délire, ça, il n'y a pas de doute si on est sur scène. Mais la partie des centaines de milliers de personnes, il me semble que tu en es à 10 000 auditeurs, donc ça fait encore un petit peu de marge, hein.
Ouais, mais écoute, pas tant que ça, tu vois. Il y a un moment, il n'y avait aucun auditeur. Et là, maintenant, il y en a un certain nombre de milliers. Et ben, finalement, tu vois, c'est pas si loin que ça, tu vois. Faire x10, x100, ça va, tu vois. Je l'ai déjà fait.
Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas l'Olympia?
Non, on délire, mais ceci dit, c'est vrai que on va pas discuter des choses qu'on est encore en train de faire. Mais en tout cas, t'es bienvenue dans l'équipe et je pense qu'on va pouvoir prochainement vous offrir des formats d'émissions un petit peu différents. On va parler notamment d'archéologie avec une jeune femme qui est vraiment archéologue, donc ça c'est cool. Et puis on est en train de bosser avec une anthropologue ici pour aller vous présenter des trucs secrets en vidéo qui peuvent peut-être être bien ou peut-être que ça sera pourri, on sait pas. Mais en tout cas, on aura essayé de faire ce truc.
La phrase la plus incertaine que j'ai jamais entendue, qui peuvent peut-être être...
Mais tu sais, parce que c'est... Alors déjà, de un, c'est difficile à t'imaginer comment ce sera, quel est le rendu final que tu vas avoir, et après, c'est pas si facile à faire que ça, tu vois. Donc, généralement, les premiers trucs que tu fais sont mauvais, hein, c'est,
ah oui,
il faut l'admettre,
ah oui.
Et c'est en continuant à les faire que tu viens un petit peu meilleur à chaque fois.
Exactement.
Normalement. Et du coup, il faut bien commencer quelque part, et donc on va commencer quelque part, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va bien se marrer. Donc c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ah oui, un autre truc peut-être pour les auditeurs qui sont là, qui sont du coup vraiment les vrais fans, j'aimerais bien essayer de faire un truc fun au niveau du contact avec vous, donc les auditeurs. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont peut-être sur Facebook, sur notre page Facebook ou sur Twitter, mais tous ces trucs-là, je trouve, ne fonctionnent pas tant bien que ça, et notamment parce qu'il y a trop de contenu, etc. Et donc je me demandais si c'était bien qu'on s'échange nos numéros WhatsApp et que je vous envoie les nouveautés via WhatsApp. Donc vous aurez maximum un message par semaine, peut-être un ou deux semaines. Et comme ça, ça vous permettra aussi éventuellement de nous contacter si vous avez des questions et que vous voulez pas le faire par le blog ou etc. Donc je vais vous filer mon numéro et on verra bien. Peut-être que ça marchera pas et que j'aurai que des trolls, tu sais. Mais, mais en tout cas, on s'amuse. Donc mon numéro, c'est le +41 79 946 56 16, et pour les Français, c'est le +41 79 446 56 16, voilà, vu que vous comprenez pas 79, malheureusement. Et puis, il suffit juste que vous entriez ça dans votre téléphone, vous m'envoyez un message, « Ah, j'aimerais bien être sur la liste », et comme ça, je pourrais vous envoyer les épisodes directement par WhatsApp. C'est un truc que je vais essayer dans les prochains mois. Je sais pas si tu connais Jason Calacanis qui fait ça via SMS, mais ça marche parce qu'il a un public américain. Mais moi, si je vous envoie des SMS et que vous êtes en Afrique, ça va me coûter un peu trop cher.
Ouais, c'est l'inconvénient de VoyageCast et d'Anthropostory. Voilà, on a beaucoup de voyageurs, de baroudeurs qui nous écoutent, donc
exactement,
ça risque de coûter cher.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un problème, enfin que les auditeurs connaissent pas forcément. Mais comment est-ce que tu fais savoir que tu as un nouveau contenu, que tu as fait un nouveau podcast qui peut les intéresser? C'est sur Facebook, globalement, tu vois un truc sur 20 que je publie. Sur Twitter, ben, il y a
Clairement,
tellement
ouais.
de trucs que tu vois pas du tout. Et donc, il faut trouver, je pense, un moyen de pouvoir avoir un contact plus direct avec les auditeurs. Et je pense que WhatsApp, il y a plus d'un milliard de personnes qui ont WhatsApp, hein, une personne sur 7 dans le monde a WhatsApp. Donc, je pense que ça peut être un bon moyen. Et si ça se trouve, encore une fois, ce sera une idée pourrie, mais écoute, il faut bien essayer.
Qui ne tente rien n'a rien. Voilà, c'était l'instant
Exactement.
proverbe.
Exactement. Or, on va finir là-dessus. Ah oui, non, mais dernier truc, tu as un blog. Est-ce que tu arrives à nous donner le nom de ton blog qui ne
Alors,
mène pas à ton blog?
de quoi? Un nom? J'ai pas compris.
Le nom de ton blog qui ne mène pas à ton blog.
Ah oui,
C'est
ok,
parce que les
d'accord.
gens vont taper ça dans Google et ils vont
D'accord.
arriver sur autre chose.
Donc mon blog, mais on mettra peut-être le lien aussi dans la description sur.
Le lien sera dans la description, ouais.
Voilà, parce que c'est un jeu de mots entre le français, l'anglais et le breton, parce que je suis breton, donc voilà. C'est Traou Nomade, Traou, et nomade en anglais, Nomad. Donc www.traounomade.wordpress.com. Et c'est donc un blog sur lequel je donne chaque mardi des bons plans pour voyager moins cher, pour vivre des expériences de voyage inédites. Mes bonnes adresses, mes coups de cœur, mes photos, un petit peu de tout, un peu d'histoire, un peu de tuto pour améliorer ses langues étrangères. Voilà, vraiment tout ce qui touche à l'univers du voyage, de la cuisine du monde, la musique du monde, l'histoire du monde. Voilà. Si vous êtes curieux, allez y faire un tour et donnez-moi votre avis.
Exactement. Et si vous tapez donc juste Trao Nomade, eh ben vous aurez d'excellentes recettes pour faire des galettes bretonnes et c'est quand même super pratique. Non mais de toute façon, le lien sera sur anthrostory.com, bien entendu, avec le contenu de cet épisode. Écoute, c'était super sympa de parler avec toi. J'ai l'impression que le temps a passé beaucoup trop vite
Ouais.
et qu'on a parlé beaucoup trop longuement, mais les auditeurs aiment bien les trucs qui sont longs, donc ça va très bien. On se redit. on se dit donc à dans 2 semaines pour parler de sujets un peu plus tech, quoique. Et on va donc admirer la déchéance de ta profession et ton remplacement par des robots militaires, Terminator. Enfin voilà, je raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, c'était super sympa, Maël, et à la prochaine.
Eh bien, à la prochaine, John.
Ciao.
Ciao.
Andrew Story.